réplique L'Amérique et nous avec Régis Debray et Philippe Roger. Baudelaire écrivait vers 1855 « Le monde va finir ». Nouvel exemple et nouvelle victime des inexorables lois morales, nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou antinaturelles des utopistes, ne pourra être comparé à ces résultats positifs. Nous sommes en 2017. Je viens de lire « Civilisation, comment nous sommes devenus américains » de Régis Debray et de relire « L'ennemi américain, généalogie de l'anti-américanisme français » de Philippe Roger. Et la question que je voudrais leur poser pour commencer, et celle-ci. Le poète avait-il vu juste, Régis Debray?
Oui et non. Bien sûr qu'un monde va finir, mais le monde va recommencer. C'est ce qu'on aurait pu dire à l'époque de Baudelaire. Baudelaire a vu juste dans la mesure où il a compris que les machines allaient effectivement transformer notre esprit. Mais le mot américanisé chez Baudelaire est un mot péjoratif. Il veut dire philistin, grossier, matérialiste. Ce n'est pas le sens dans lequel je le prends. Donc je dis oui à Baudelaire, mais camarade Baudelaire, ne soyez pas triste. Ainsi est la marche du monde. Tout esprit a ses appareillages et ses outillages. Simplement, l'Amérique est en avance d'une révolution technique. Les Romains savaient faire des routes, des aqueducs. Et des ponts, les Américains savent faire des appareils électroménagers, des avions, des drones armés, des algorithmes et des très beaux films. Et le cinéma est une technique et pas seulement un art. Donc oui, c'est la dynamique du progrès technique qui a américanisé, je dirais, par contre-coup, le reste du monde et l'Europe en particulier. Et ce ne sont pas des stratagèmes indignes, ce ne sont pas des mauvaises intentions, parce que je crois que ni Edison ni Bell n'avaient de mauvaises intentions. Simplement, ils ont produit des résultats qui ont industrialisé la culture.
Et Bill Gates et Zuckerberg ont-ils aussi de bonnes intentions? Parce que c'est ça, la forme contemporaine de l'américanisation, ce sont les GAFA, quand on
vous parlez des grands bienfaiteurs de l'humanité.
Et oui.
Ce sont les messies de la technologie, philanthropes dorés sur tranche, et qui servent, je crois, de chevalier vermeil à toute cette nouvelle génération française qui voit en eux les prophètes auxquels il convient d'obéir.
Je parlais de Zuckerberg parce qu'il a prononcé récemment un discours à Harvard et que Le Monde a publié quasi intégralement. Et c'était un grand discours politique.
C'était la pastorale.
C'était une sorte de pastorale. La pastorale américaine.
La pastorale américaine, si on peut dire. Qui devient la pastorale française.
Alors, Philippe Roger, et j'aurais un mot sur le « ne soyez pas triste » que vous avez prononcé. Éloge de la tristesse.
Je crois qu'on ne pouvait mieux commencer que par cette page de Baudelaire. D'abord parce qu'elle est extraordinaire. Ensuite parce qu'elle marque sans doute un moment charnière. Parce que Baudelaire est à la fois l'héritier déjà de toute une tradition établie d'anti-américanisme culturel. L'Amérique, c'est les Philistins, c'est ceux que Baudelaire lui-même appelle volontiers les Yankees. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est le moment où il essaie de se renseigner sur Edgar Allan Poe, qu'il adore, mais il sait pas qui c'est, en fait. Et il apprend qu'un Américain qui pourrait avoir des choses à lui dire sur Poe, ce qui s'avère faux, évidemment, est descendu dans un hôtel parisien. Alors Baudelaire se précipite, puis cet Américain connaît à peine le nom de Poe, et Baudelaire claque la porte en disant « ce n'est qu'un Yankee ». Donc il y a chez Baudelaire toute cette tradition, on a déjà eu Stendhal et beaucoup d'autres, hein. Les textes de Stendhal sont magnifiques. Quand même, quand Fabrice Del Dongo est sur le point d'être mis en prison, peut-être au Spielberg par les Autrichiens ou les petits despotes italiens, et qu'on lui dit « bon, allez New York », et il dit « oh non, je préfère rester hein. ».
Oui, sauf que Stendhal ne parle pas de la machine.
Non, Stendhal, justement, et c'est là que Baudelaire fait charrière. Parce que ce qui est nouveau, c'est que ce n'est plus seulement ces incultes hein, dont parlaient d'ailleurs déjà les Britanniques, hein, Frances Trollope, enfin il y a toute une vulgate, les Américains n'ont pas de littérature, n'ont pas d'art, etc. Ce qui est nouveau, et Baudelaire s'en étonne presque lui-même, c'est ça qui est très émouvant dans cette page, parce qu'il est transporté, et à la fin il y a un moment ironique où il dit « je joue au prophète hein, », je suis en train de faire le petit prophète, je fais une tartine, comme on dit dans les journaux. Et ce qu'il y a de tout à fait nouveau, c'est bien sûr l'anti-machinisme. C'est Baudelaire qui a inventé le terme « américanisation américanisée », donc à tout seigneur, tout honneur. Et il l'a introduit, avant ce fragment, peu de temps avant, dans un article sur l'exposition universelle de 1855. Donc c'est très lié à la technologie. Pour lui, en gros, l'Amérique, c'est la Belgique empire. Hein. Et c'est pour ça qu'on retrouve ça dans les fusées, avec les pensées contre la Belgique.
C'est la modernité
au sens de la technologie, la fin de la spiritualité. C'est quand même très important pour un lecteur de Joseph de Maistre comme lui. Puis alors, il y a quand même une dernière chose que je voulais dire. Dans cette page, il y a une description de la fin des liens familiaux, interindividuels, affectifs. C'est absolument étonnant parce qu'il y a un paragraphe dans ces trois pages de fusée de Baudelaire qui ressemble beaucoup au début du manifeste du Parti communiste sur le fait que les liens bariolés qui unissaient la société féodale vont être détruits par la société marchande et capitaliste.
Les eaux glacées,
exactement.
Donc, en effet, ce qui est important chez Baudelaire, c'est l'insistance sur la machine, vous l'avez dit juste après, donc sur la technique. L'Amérique comme apothéose de la technique. Et là, on peut s'interroger sur la pertinence du diagnostic. Là, je citerai un grand penseur oublié d'un grand événement oublié, Karel Kosik, penseur du printemps de Prague, disant que parler d'américanisme, c'est faire comme si les problèmes de l'époque moderne arrivaient en Europe à partir d'un autre continent, étaient importés d'une autre culture, alors qu'ils sont peut-être un produit européen et uniquement européen. C'était déjà la critique romantique d'un certain aspect de la philosophie des Lumières qui réduit le monde à un domaine maîtrisé, qui envisage toute chose comme un moyen, et c'est-à-dire une matière malléable ou une mécanique. Et là, on en aurait peut-être l'apothéose avec l'Amérique. Alors, j'aurais une double question, Régis Debray. N'y a-t-il pas une injustice à américaniser un phénomène civilisationnel qui est né en Europe, même si il se traduit aux États-Unis avec une force particulière? Et puis, deuxièmement, je n'oublie pas votre phrase, un monde va finir, ce n'est pas le monde qui va finir, ne soyez pas triste. Ce refus de la tristesse se retrouve dans votre livre. Mmh. Hein, vous êtes très critique, mais vous refusez la mélancolie, et vous dites, rien ne meurt, tout se transforme. Donc c'est peut-être deux questions en une, c'est peut-être trop. Alors répondez à l'une ou à l'autre, nous avons le temps devant nous, mais voilà, ce sont deux inquiétudes que j'exprime. Oui. Pourquoi se refuser à la tristesse et le terme d'américanisme est-il légitime pour décrire le phénomène dont nous sommes aujourd'hui les témoins, les protagonistes et peut-être les victimes?
Régis Debray. Alors, première question, réponse, que l'Amérique ait été une projection de l'Europe, Valéry l'a dit en son temps remarquablement, oui. Et il est vrai que l'Amérique a été une projection de la révolution industrielle européenne et d'un certain esprit européen, mais il se trouve que ce qui a été projeté est rétro-projeté sur nous, et nous voilà, nous, une projection de l'Amérique. C'est cette inversion qui m'a intéressé dans mon livre, c'est-à-dire comment nous qui étions, au moment où Valéry s'exprimait, le soleil et il y avait une planète Amérique, nous sommes devenus l'inverse, une planète du système solaire américain. Et simplement, oui, il se trouve que le premier des techniciens est le premier dans la technosphère, si vous voulez. C'est-à-dire que les Américains ont eu sur nous l'avantage d'aller plus vite et d'anticiper. J'ai été frappé de voir une réflexion de Franklin Roosevelt en 1939, lorsque le premier écran cathodique a été mis en vente. Il a dit « Le miracle de la technique fera un jour du monde une seule patrie ». Ça ne va pas vous plaire, Alain Finkielkraut, que le monde soit une seule patrie. Moi, ça ne me plaît pas beaucoup non plus. Mais je constate, eh bien, que c'est vrai que nous, les médiologues, nous étudions un peu ce que les outils font à leurs utilisateurs, hein, c'est-à-dire, au fond, quels sont les allers-retours entre la technique et la culture. Et je constate, tout au long de l'histoire, qu'il n'y a aucune culture sans une technique correspondante. Et qu'il n'y a non plus aucune technique nouvelle sans une nouvelle culture. C'est comme ça depuis l'invention de l'écriture qui a permis la démocratie, comme l'invention de l'imprimerie a permis le protestantisme, comme l'invention de la rotative a permis la République, et comme l'invention du numérique aujourd'hui permet une américanisation globale du monde via un certain nombre de valeurs nouvelles, puisque les valeurs nouvelles suivent les outils nouveaux. En gros, le numérique, ça exige la transparence. Il faut que M. Bayrou parte. Bon, c'est comme ça. C'est un fait. C'est un fait. Alors, moi, je ne le déplore pas. Et c'est là notre deuxième... Là où je serais en différence avec vous, mon cher Alain, c'est que je ne suis pas heideggerien, je n'oppose pas l'esprit et la technique, je n'oppose pas deux univers, j'essaye de constater leur corrélation intime. Autrement dit, je ne déplore pas, il est vrai, un avènement technologique qui me semble échapper à notre volonté, et qui a certaines conséquences. Je demande simplement qu'on soit lucide sur ces conséquences, mais qu'on ne soit pas, ou qu'on s'efforce de ne pas être mélancolique. On peut l'être dans son cœur, mais garder une certaine gaieté ou ironie dans l'expression. Voilà, c'est pas très suffisant philosophiquement, mais je ne m'arrache pas les cheveux devant les ordinateurs, même si je ne sais pas les utiliser personnellement.
Non, mais je crois que la question de la technique, elle est fondamentale dans, en tout cas, l'histoire au XXe siècle de l'anti-américanisme. Elle est d'autant plus fondamentale que cette technophobie partagée par la plupart de ceux que je désigne comme anti-américains simplement parce qu'ils participent d'un discours contre l'Amérique sont des technophobes. Or, cette tradition, elle n'est pas du tout à gauche. Elle n'est pas du tout... Et c'est pour ça que la gauche, pendant très longtemps, était assez absente du champ de l'anti-américanisme. Il a fallu la Deuxième Guerre mondiale pour qu'elle entre massivement dans l'arène, si j'ose dire, qu'elle entre en lice, et pour des raisons de géopolitique que nous connaissons. Et
oui.
Avant cela... Eh bien, qu'est-ce qui est anti-américain ? Encore une fois, je mets les guillemets, c'est un discours dont je parle, je désigne pas des boucs émissaires. Eh bien, les anti-américains, ce sont des gens qui haïssent les téléphones, ce sont des gens qui pensent que si on répond au téléphone, on est comme un domestique qui répond à une sonnette.
C'est Degas qui disait ça.
Oui,
non,
c'est ça, et on en trouve des échos jusque chez Proust, humoristique chez Proust, bien sûr. Ce sont les gens qui, comme Cocteau, pensent que c'est très mal d'avoir l'eau courante, parce que c'est beaucoup plus agréable qu'on vous apporte un petit bassin avec de l'eau pour vous laver dans le coin où vous étiez ou sur votre bureau de travail. Enfin, bref, le discours contre la technique, on va le trouver... dans une culture qui est fondamentalement une culture de tradition, une culture qui pense que la technique c'est toujours contre l'esprit, alors que vous l'avez dit, Régis, il n'y a aucune raison de les séparer, et c'est une culture quand même très enracinée dans le catholicisme, et dont on va trouver un des plus beaux exemples chez quelqu'un que vous citez d'ailleurs, Berdanos.
Berdanos, oui, qui la fait... France contre les robots.
Contre les robots.
C'est à la fois admirable au plan sentimental et désastreux. Au plan
et
historique.
Enfin. Puisqu'il va jusqu'à dire que la Deuxième Guerre mondiale, le responsable, c'est la machine.
Voilà.
Ce qui est quand même très grave. Il y a un transfert de responsabilité sur la machine responsable abstraite et implicitement du côté de l'Amérique. Alors qu'on sort, c'est juste après la guerre.
Alors écoutez, je vais essayer de plaider un peu pour la mélancolie. On peut parler d'une réflexion critique sur la technique, Philippe Roger, sans être nécessairement taxé de technophobie. Nous sommes pas dans le domaine nécessairement d'une pathologie. Mais c'est cette phrase, si vous voulez, Régis Debray. Rien ne meurt, tout se transforme. Et moi, je ne suis pas nécessairement à Heidegger, mais ça m'a fait penser à la polémique de Peggy avec Jaurès. La polémique dans ce qu'elle avait de grand. Je ne parle pas des excès terribles de Peggy que tout le monde a en mémoire et qui sont en effet impardonnables. Mais ce qui l'a mis en rage au début, c'est le « rien ne fait de mal » de Jaurès. rien ne fait de mal. Il n'a pas supporté, il a dit, il faut envisager l'histoire sub specie mortalitatis. C'est-à-dire, il y a des choses qui meurent. Il y a de l'irréparable. Baudelaire. Baudelaire était un poète. Il y a eu des poètes au XXe siècle. En France, il y a René Char, Saint-Jean-Père, Supervielle, Aragon, Valéry Larbeau, Michaud, Ponge, Yves Bonnefoy. Yves Bonnefoy qui est mort dans l'indifférence générale. Y a-t-il des poètes aujourd'hui? Sont-ils lus? S'il y en a, c'est comme si la poésie disparaissait. Et vous n'allez pas me dire que tout se transforme en rap ou en slam. C'est un autre monde et peut-être cela à voir... Et là, nous revenons à notre sujet, avec une certaine disparition de la technique, de la nature, justement, entièrement technicisée. Max Horkheimer disait « Il fut un temps où tout l'effort de l'art consistait à exprimer le sens des choses de la vie, à être la voix de ce qui est muet, à doter la nature d'un organe afin de faire connaître ses souffrances, ou dirons-nous d'appeler la réalité par son nom légitime. Aujourd'hui, on réduit la nature au silence, et en effet, la nature, aujourd'hui, elle n'existe plus. L'homme rencontre partout le produit dénué de mystère de sa propre activité. Ça a à voir avec la technique, avec la disparition de la poésie, et c'est un événement. C'est-à-dire, il y a des choses qui meurent, et qui ne reviendront plus. Donc, voilà, c'est cette phrase-là, si vous voulez, qui m'a... c'est pour dire deux choses. Un, la critique de la technique peut avoir un sens, sans relever de la technophobie. Et deux, il y a de l'irréparable en histoire. L'histoire est tragique. Je ne vais pas vous faire le coup de Raymond Aron à Giscard d'Estaing, mais l'histoire est tragique, c'est bien ça que ça veut dire. La mort existe, elle ne concerne pas que les individus, Régis Debray.
Elle concerne les civilisations, et c'est bien pourquoi j'ai fait ce livre. Écoutez, aucune métamorphose n'est innocente. Il y a tout au long de l'histoire une comptabilité en partie double, et je dirais qu'il y a de la perte en ligne. C'est évident. Mais chaque perte est compensée par un gain. Si vous voulez, excusez-moi, je vais vous apparaître un peu panoramique et survolant, mais enfin, Byzance meurt, épouvante. Ouais, il y a des gars qui sortent de Byzance avec Platon sous le bras et qui vont à Florence. Bon. Les Médicis ont des problèmes et c'est la France de François Ier qui prend le relais. Hein. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que oui, à chaque fois, on oublie quelque chose. Et il est évident que les États-Unis, aujourd'hui, contraignent l'Europe à oublier un certain nombre de choses qui me tiennent autant à cœur qu'à vous, mon cher Alain, comme la poésie de Bonnefoy ou la prose de Julien Gracq, dont je suis bien forcé de constater qu'elle n'intéresse plus grand monde. Mais je constate aussi que chacun reprend la balle au bon, c'est plus la même balle, évidemment. Voilà, si vous voulez, une traversée des millénaires un peu saumâtre, et je le dis d'autant plus que je fais partie des dommages collatéraux, ma petite personne fait partie des dommages collatéraux, parce que je n'ai plus grand-chose à faire sur cette terre. Mais je constate qu'il y a toujours du rebond. Il y a des rebonds. Bon, tant pis pour la balle d'avant.
Il y a une belle image dans Valérie, puisque Régis Debray, vous commencez, vous finissez votre livre sur Valérie. Et il a une belle image dans La crise de l'esprit qui pose bien la question. C'est l'image de la goutte de vin dans une grande quantité d'eau. Parce qu'il se pose la question de ce qui va rester. C'est à la fin de La crise de l'esprit, dernière lettre. Et il se pose la question du quantitatif, en quelque sorte. C'est-à-dire, est-ce que la goutte de vin va suffire pour colorer? C'est le problème de la transmission que vous posez aussi, à votre manière. Et Valérie se pose la question et il dit, je ne peux pas encore répondre, je vais y réfléchir, je vais y travailler. Et nous n'avons pas la suite. Mais la question, c'est, est-ce que la goutte de vin, ça peut être Bonnefoy, ça peut être les poètes? Les poètes existent encore. Enfin, la revue critique que je dirige, très modestement, essaie d'en parler et en parle très souvent. Et je suis étonné, même surpris agréablement par le nombre de gens qui sont heureux de lire les poètes et de voir que, voilà, on les publie encore.
Il y a des poches de résistance qu'on appelle des cultures. Voilà. Bon. Autant une civilisation, si vous voulez, elle est expansive et proactive, une culture est défensive et commémorante, mais elle se défend et elle peut même parfois renaître, refleurir.
Alors il y a quelque chose qui va quand même tout à fait dans le sens de votre livre, Régis Debray, Civilisation, comment nous sommes devenus américains. En effet, ce livre est bourré, de manière délibérée, vous le dites, de néologismes qui traduisent la pénétration de l'anglais dans notre langue. Et je voudrais citer à l'appui de votre réflexion, de votre thèse, de votre intuition, un article paru tout récemment dans le journal L'Opinion. L'Opinion qui n'est pas, qui était un journal plutôt libéral et plutôt macronien, du moins pourrait-on penser. Et alors là, c'est absolument sidérant. J'avais déjà entendu parler au moment de la campagne des Helpers, qui remplaçaient les militants, d'un pôle event, mais là, on va beaucoup plus loin, semble-t-il, puisque ce qui est demandé à chaque ministre par le cabinet du Premier ministre, c'est, pour préparer son discours de politique générale, un draft. Les ministres doivent, choisis en raison de leur expertise, doivent préciser la politique qu'ils veulent mettre en œuvre. Et cela, eh bien, ils le font bottom-up. Mais ils doivent aussi prendre pour point de départ le programme du président.
Top
et là,
down.
Ça doit être top-down. Et puis, pourquoi ? Ça veut dire simplement qu'on est très processé, ce qui veut dire qu'on est très méthodique. Et on vous explique aussi qu'un Élysée qui staffe tout, qui choisit lui-même les directeurs de cabinet, ça ne marche pas. Et on regrette que certains candidats LR aient été un peu trop bullish pendant la campagne, c'est-à-dire ils se sont prévalus un peu trop vite du soutien du Premier ministre. Et on apprend également que ça matche bien entre les deux têtes de l'exécutif. Et dans un article récent du Monde, Michel Guérin nous rappelait les émissions The Voice, Secret Story, MasterChef et ce slogan Made for Sharing qui est celui de la candidature de la France de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques. Alors moi, ça me fait penser à au livre d'Alain Borère, De quel amour blessé sur la langue, où il dit libérons-nous du lexique anglo-saxon. Devisant de langue française, mettons un terme à l'azincourt lent, apprenons l'anglais et parlons-le aussi bien que possible, mais cessons de l'utiliser d'ores et déjà à la place de la langue française. Pourquoi dire checker alors qu'on peut dire vérifier ? Et en même temps, je pense que vous citiez Julien Gracq, à cette phrase de Julien Gracq, l'anglais est un espéranto qui a réussi, c'est-à-dire le chemin le plus court et le plus commode de la communication triviale. La langue étant, dans le monde de la technique, considérée comme un moyen, ça c'est antérieur à la venue de l'américain, alors on utilise les mots les plus commodes, parce qu'on a d'ores, on a avant cela, si j'ose dire, cessé d'habiter la langue. Et voilà ce que ça donne, Régis Debray.
Alors, premier constat, la génération qui arrive aux manettes, les trentenaires, sont les enfants du smartphone. De même que la génération des quinquas qui la précédait était l'enfant de du petit écran, où on parlait encore français. Et ma génération était l'enfant du grand écran, où on pouvait parler plusieurs langues, russe y compris, quand on voyait le cuirassé Potemkin. Alors, j'en reviens donc aujourd'hui, le smartphone parle l'anglais, comme le numérique lui-même. Alors, soyons francs. La langue de la République est le français, article 2 de la Constitution. La langue de l'économie est l'anglais. Et la Nouvelle République met l'économie avant la politique. Donc, vous ne pouvez pas à la fois admettre ou sourire au triomphe de l'économisme, qui pour moi est la signature de notre époque, et déplorer la fin du français, parce que c'est l'un ou l'autre. Et surtout si c'est une entreprise multinationale. Airbus Industrie à Toulouse, ou l'aérospatiale, ou Sanofi en France, on ne parle qu'anglais. Donc, industrialisation de la culture, marchandisation des échanges, anglophonie généralisée égale américanisation de la planète, la France inclue. Ce qu'il y a de nouveau, mon cher Roger, mon cher Alain, c'est que avant, on s'en rendait compte et on était un peu triste, comme vous. Aujourd'hui, ça se passe dans une certaine amnésie presque joyeuse. On est content d'être connecté et les dommages collatéraux tendent à passer à l'as. Bon, ça fait partie de ce que j'appelle un axe de civilisation nouveau. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, c'est-à-dire, moi, je ne m'y résigne pas plus. Mais je suis ronchon, comme vous, je veux dire, je ne m'y résigne pas. Je suis tout aussi irrité que vous. C'est ennuyeux, parce que sur ce point, on va avoir du mal à être en contradiction. C'est vrai, mais rappelons que Étienne, dans son livre fameux de 1965, avait déjà fait une collection absolument remarquable de ces termes d'anglais, souvent d'ailleurs mal compris, introduits dans le français. J'ai trouvé très drôle, Régis Debray, que vous mentionniez ces mots en disent.
Oui, ils sont passés dans le langage courant.
Ils sont passés dans le langage courant où ils font rire maintenant, ils font sourire. C'est-à-dire qu'il faut admettre une certaine osmose et donc une certaine intégration. Mais quand on a un défilé de sottises, d'absurdités, comme dans le texte que vient de nous lire Alain Finkielkraut, on ne peut quand même que sauter sur sa chaise de désarroi et même d'indignation. Alors, il ne s'agit pas d'être dans une espèce de protectionnisme un peu. C'est ça, ça rejoint tout le problème de la codification de la langue. Hein. C'est-à-dire que c'est un problème que déjà les révolutionnaires de la Révolution française se posaient. Jusqu'à quel point peut-on diriger le génie des langues ? Et à quel point doit-on accepter ? À l'époque, le grand problème, c'était est-ce qu'on va adopter des mots comme « club » ? Après tout, club des Jacobins, c'était quand même un anglicisme. Et est-ce qu'il faut prendre ce vocabulaire parce que nous ne l'avons pas ? C'est le cas évidemment maintenant d'un certain vocabulaire technologique qui vient et qu'il est plus simple, plus facile, plus rapide d'emprunter à l'anglais. Est-ce qu'il faut s'en indigner ? J'ai l'impression que d'une certaine manière, les révolutionnaires français de 89-90, ayant moins d'appréhension, de peur peut-être du déclin, ils n'avaient pas du tout peur du déclin, ils avaient d'être le fer de lance de l'avenir, n'avait pas vraiment de problème à adopter convention. Notre convention nationale vient de l'anglais, les clubs viennent de l'anglais, etc. etc.
Et vous connaissez le mot de bouche-fils. Ah, c'est malheureux français. Ils n'ont pas de mot pour entrepreneur.
Oui, absolument. Ça fait partie.
Non, mais le fait est, c'est que le secrétariat d'État à la francophonie a disparu. C'était un ministère jadis, c'est devenu un secrétaire d'État. Il n'y aura plus aujourd'hui que des hauts comités, puisqu'il n'y a pas de comité qui soit bas. Donc là, on voit précisément une sorte de réduction en peau de chagrin de notre langue.
Il me semble que cette colonisation de notre langue est une des composantes d'un problème beaucoup plus radical. C'est celui d'une langue de moins en moins bien parlée, d'une syntaxe qui s'effondre, d'une orthographe tombée dans l'oubli. Plus la langue est vécue comme un moyen de communication, moins elle est aimée, respectée, honorée, et moins est grande en elle aussi la place de la littérature. Mais vous parliez de l'économie, Régis Debray. Là encore, est-ce que le terme d'américanisme convient ? Parce qu'après tout, l'homme économique a surgi en Europe à un moment donné de son histoire, avec le libéralisme, manière qu'ont eu les pays européens de sortir des guerres civiles religieuses. Il fallait bien faire quelque chose. Et c'est le premier plus jamais ça de l'histoire européenne, a dit Jean-Claude Michéa. Sortir de là, justement, en découvrant une passion qui pouvait calmer les autres passions, à savoir l'intérêt, l'industrie. Donc, c'est une sorte de révolution anthropologique qui s'est faite en Europe, qui a évidemment culminé aux États-Unis, mais c'est encore une fois un produit européen, l'homme économique. Régis Debray.
Oui, il n'y a pas d'économie sans culture, et quand il y a une révolution économique, il y a derrière une révolution culturelle. Chez nous, ça s'appelle le protestantisme. D'accord ? On peut peut-être nuancer Max Weber, mais on ne peut pas le critiquer sur le fond. Vous regardez une carte et vous voyez que les pays où le capitalisme est le plus avancé jusqu'à aujourd'hui sont des pays d'origine protestante. Mais, mon cher Alain, Calvin est devenu américain, c'est-à-dire néo-évangélique. Le protestantisme a été refait, reformaté, déformé ou réformé, réforme dans la réforme, dans l'évangélisme, qui est pour moi la religion de notre civilisation, qui n'est pas réductible au pentecôtisme, mais qui revient chez nous, à la fois par l'Ouest et par le Sud, sous la forme de toutes les dénominations qu'on appelle des sectes, mais qui ont aux États-Unis pignon sur rue. Donc, il est vrai que l'économie dont vous parlez, effectivement, au sens capital, au sens que l'argent produit, que l'argent c'est pas mal, et ben effectivement, c'est né en Europe. Vous avez raison, mon cher Alain. Mais d'Europe, c'est passé aux États-Unis, et des États-Unis, ça nous revient sous une forme profondément métamorphosée.
Oui, enfin, vous avez raison, mais d'un autre côté, avec tout le respect qu'on doit à Weber et à cette genèse du capitalisme par le protestantisme, on a quand même eu nos formes de l'homo economicus qui ne devait pas grand-chose au protestantisme. Oui. On a eu l'idée d'une économie familiale, économie monarchique. On a eu les économistes. Ceux qui s'appelaient les économistes, ils sont pas du tout protestants, ils sont bien de chez nous. Oui. On a eu le colbertisme, un des rares mots que nous ayons réussi à exporter en anglais, colbertisme, et qui est très utilisé aux États-Unis. Il y a même une espèce de petit groupe d'extrême gauche qui se dit colbertiste.
Non, c'est vrai qu'il y a eu des banquiers et en Toscane.
C'est ça, et les économistes chez nous, c'est une école capitale pendant les Lumières tout de même, hein, qui a cette idée qu'il faut effectivement organiser, eh bien, non plus selon la formule célèbre, le commandement des hommes, mais l'organisation des choses, et que le mieux, c'est de gérer la bonne marche de la production, de la distribution, avec un libéralisme relativement contrôlé, mais sous la houlette monarchique néanmoins. Donc, on a notre propre histoire de l'économie.
Elle est un peu englobée maintenant dans une autre histoire d'ordre planétaire. C'est-à-dire dans la société des individus, qui est tout de même, je crois, de fabrique protestante et anglo-saxonne.
Alors maintenant, je voudrais introduire un nom qui doit figurer dans notre conversation. Et Philippe Roger, je voudrais savoir quelle place vous lui accordez. Vous avez fait un livre très important, L'ennemi américain, assez exhaustif. Mais Tocqueville n'est pas au cœur de ce livre. Or, Tocqueville, c'est celui qui a eu beaucoup à nous apprendre sur l'Amérique, et pas seulement sur l'Amérique, sur la démocratie. D'ailleurs, nous réfléchirons justement à ce qu'il a découvert aux États-Unis. Mais quelle est la place de Tocqueville dans le paysage que vous avez voulu dessiner de la démocratie en Amérique?
C'est une question importante et qu'on m'a souvent posée. C'est-à-dire, le livre porte sur la constitution d'un discours dont j'essaie de montrer qu'il a été une sédimentation organisée par nos clercs. Et évidemment, ce qui apparaît comme une objection majeure, c'est ce livre de Tocqueville, la démocratie en Amérique, les deux démocraties en Amérique de Tocqueville. Bon. Ce que j'ai essayé de regarder de près, c'est la réception de Tocqueville. Enfin, je l'ai fait en m'aidant des spécialistes de Tocqueville aussi, que j'ai lu, François Méloniaux et d'autres. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont Tocqueville est peu et mal reçu pendant tout le 19e siècle, pratiquement, et même une bonne partie du 20e siècle. Et ce qui était encore plus intéressant pour moi, c'est de m'apercevoir que la page la plus citée, je l'ai trouvée citée partout, y compris chez Boutmy, fondateur de Sciences Po, c'est la page sur le fait qu'il n'y a pas de vraie liberté de pensée en Amérique. Hein. C'est un chapitre qui est très court, très incisif, très brillant, où Tocqueville explique qu'en fait... La tyrannie de la majorité. Les despotismes européens, c'est terminé. C'est du pipi de chat. Ce sont des choses de peu d'importance. Parce que une tyrannie matérielle, finalement, n'empêche jamais qu'il y ait des poches de résistance. Hein, et nous le savons, l'histoire nous le dit bien. Alors que cette idée que l'on ne puisse plus élever la voix dès lors que la majorité s'est prononcée, eh bien, c'est ce qu'il appelle, effectivement... le despotisme de la majorité. Et c'est cette page-là qui, pendant un siècle, est reprise systématiquement. Et c'est très important dans l'image de ce que j'appellerais le totalitarisme américain tel que le conçoivent les détracteurs de l'Amérique.
Et c'est très réducteur pour Tocqueville.
Oui,
parce que,
bien sûr.
En Amérique, on voyait les rousseauistes comme les anti-rousseauistes, voyaient un peu comme l'état originel de la civilisation, les forêts, l'homme simple. Et puis, tout d'un coup, Tocqueville découvre l'avenir des démocraties européennes. Et donc, il décrit l'Amérique, mais il ne parle presque jamais de l'Amérique. Il parle des sociétés démocratiques et des sociétés aristocratiques. Mmh. Et il dit des choses qui sont en train d'arriver, mais qu'on a du mal à imputer à l'Amérique, puisque c'est l'impulsion même des démocraties. Rien ne révolte plus l'esprit humain dans les temps d'égalité que l'idée de se soumettre à des formes. Les hommes qui vivent dans des siècles démocratiques ne comptent pour rien l'utilité des formes. Révolte contre les formes. C'est ce que vous avez écrit, Régis Debray, dans votre livre « L'obscénité démocratique ». On ne veut plus des formes. Il y a une espèce d'être soi-même, etc. Confusion du privé et du public. Il le découvre en Amérique, mais il le découvre comme le mouvement interne de nos démocraties. Maintenant, tout le monde s'appelle par son prénom. Ça vient d'Amérique. Bien sûr que ça vient d'Amérique. Mais ça vient aussi, c'est aussi typique des sociétés individualistes dont Tocqueville a parlé le premier. Nous sommes d'abord des individus. On va pas se charger d'un patronyme, d'une lignée, etc. Le monde commence avec nous-mêmes. Il le voit en Amérique, mais il voit en Amérique un phénomène, une dynamique qui est celle de l'égalité des conditions. Régis Debray.
Écoutez, c'est vrai que Tocqueville a eu tout de même l'immense mérite de découvrir que l'Amérique était l'avenir de l'Europe, ce qui fait de la démocratie en Amérique un livre d'actualité. Voilà. Il a notamment découvert que la religion pouvait être non pas une religion du salut, mais une religion du salut par la prospérité. C'est-à-dire une réhabilitation, si vous voulez, de la réussite matérielle, alors qu'elle était évidemment condamnée dans le monde sacrificiel catholique. Bref, il a découvert beaucoup de choses, dont notamment, effectivement, la privatisation du public que nous sommes en train de vivre. Là. C'est-à-dire, ce que je dirais, la fin de la laïcité, dans la mesure où la laïcité, c'est la séparation du public et du privé, c'est-à-dire dans la mesure où, quand vous avez une campagne politique, vous ne regardez pas la toiture, la progéniture ou la voiture du candidat, mais plutôt ce qu'il nous propose, n'est-ce pas ? Bon, là, il y a quelque chose, je dirais, une américanisation de la vie publique, aidée effectivement par les nouveaux outils de publicité, c'est-à-dire les nouveaux outils, je dirais, de dévoilement, d'intrusion, appelons cela la transparence. Transparency International, qui gouverne aujourd'hui la politique française dans toutes ces vicissitudes, c'est un produit des États-Unis. Mais je voudrais mentionner, parce que nous sommes censés, non pas nous combattre, mais débattre, Philippe Roger et moi, que moi j'aime beaucoup son livre dont j'ai fait ma Bible. Et je vais vous dire pourquoi. Mon anti-Bible.
Le mot m'inquiète.
Non, parce que c'était une anti-Bible, c'est-à-dire que votre livre a le mérite de faire le catalogue ou l'inventaire de toutes les bêtises que on peut dire en Europe à propos de l'Amérique. Alors, quand on ne veut pas dire de bêtises, c'est très intelligent d'avoir à vous lire. Ce sont des garde-fous que j'ai essayé de respecter, mon cher Philippe.
Dans votre dernier livre, je suis... Non seulement vous l'avez respecté, mais j'ai toujours trouvé que vous étiez un anti-américain. D'abord, vous l'annonciez. Vous l'annonciez. Ça ne se fait pas. Le véritable anti-américain, en admettant que ça existe, ne s'avoue pas anti-américain. Et vous-même, vous avez fait un très beau texte, il y a déjà quelques temps, intitulé « Confession d'un anti-américain ». C'est suspect, vous l'avouerez. Et dans votre dernier livre, eh bien, je vois que vous reprenez un certain nombre de stéréotypes, mais vous les reprenez comme stéréotypes. Et je veux dire que je suis assez fier d'avoir, il y a des années, dans mon livre, repéré que vous étiez parfaitement conscient de cette stéréotypie. C'est évident, vous n'êtes pas dupe de la stéréotypie sur l'Amérique. Et c'est pour cela que je trouve le dernier livre tellement intéressant, puisque vous reprenez un certain nombre de thèmes et en même temps, vous les ironisez.
Alors, il y a une atmosphère de bienveillance.
Nous vivons l'époque de la bienveillance, qui règne justement dans cette émission, tous ensemble.
Voilà,
soyons américains.
Voilà, soyons américains, soyons macroniens.
Nous prénom.
Voilà.
Excusez-moi,
Régis, Philippe, etc.
Vous êtes Philippe.
Non.
Et moi, vous ne m'appelez pas Régis. Je suis fâché.
Voilà. Donc vous serez Debray et Roger. Oh. Et pour pas pour mettre fin à la bienveillance, mais pour problématiser un peu les choses, vous avez dit Philippe Roger que la gauche a découvert l'anti-américanisme, un moment particulier de l'histoire, c'était quand même la division du monde en deux blocs, deux subjectivités antagonistes, dit Alain Badiou dans son livre sur le XXe siècle. Donc, voilà. Et l'Amérique, c'était le mauvais côté de l'histoire, le camp impérialiste. Et à ce moment-là, tous les arguments étaient bons pour dénoncer l'impérialisme et effectivement pour ne pas voir ce qui se passait en Union soviétique. Alors je ne dirais pas qu'on peut transposer les choses à la situation actuelle, mais un acteur politique et culturel est entré sur la scène de l'histoire, l'islam, l'islamisme, avec voilà une certaine force conquérante, une certaine réalité démographique, et tout d'un coup, la gauche dit le problème, c'est l'Amérique. Est-ce que ça ne recommence pas, si vous voulez, sous une autre forme ? L'ennemi américain pour ne pas voir une réalité historique qu'on a du mal à intégrer dans une certaine vision classiquement de gauche de l'histoire.
Bon, cher Alain, Philippe Roger. Pas de prénom. Je crois que vous touchez un point essentiel. Vous touchez un point essentiel parce que non seulement... Alors, c'est là que je vais trouver une divergence avec avec Régis Debray, puisque il pense que être anti-américain ou être étiqueté anti-américain, ça reste un stigmate, une tare, un carcan, etc. Moi, je pense au contraire que, dans le milieu intellectuel, en tout cas, Ça a toujours été tellement consensuel d'être anti-américain que je pense que c'est plutôt difficile de s'assumer pro-américain, si ça existe, qu'anti-américain. Donc, première petite divergence. Ce consensus, c'est précisément ce dont vous parlez. Les États-Unis, cette vision, cette Amérique imaginaire, qui a mobilisé contre elle les meilleurs de nos clercs, de nos écrivains, de nos poètes, de nos philosophes souvent, cette Amérique imaginaire a fait consensus. J'avais trouvé un témoignage qui m'avait fasciné d'un voyageur latino-américain en pleine affaire Dreyfus à Paris et qui disait « c'est incroyable, les Français se disputent, on ne peut pas ouvrir la bouche sans qu'il y ait une dispute, mais il y a un seul point sur lequel ils sont d'accord, c'est de taper sur les États-Unis d'Amérique. C'était le moment de la guerre à Cuba de 1898, ce qui explique un peu les choses. Donc ça a toujours fait consensus. Et ce qui est extraordinairement juste dans ce que vous avez dit, c'est que ce consensus permet d'éviter, il sert de cache, il sert d'écran, il n'y a pas à payer, hein. Je sais bien que Monsieur Rumsfeld voulait nous faire payer en disant there will be consequences, il y aura des conséquences à votre anti-américanisme, il n'y en a pas eu, c'est pas vrai, hein. Donc l'anti-américanisme est formidable parce que c'est à la fois consensuel et ça permet de se donner un ennemi qui ne va pas venir faire rétorsion. Je vois.
Ah ben voilà.
Je vois que le débat s'anime.
Permettez-moi d'introduire un dissensus dans votre consensus à tous les deux. Non pas que je réclame ma marginalité, il est toujours intéressant d'être un peu marginal, mais je la constate. Et là, je suis absolument en désaccord avec vous. Je vous signale que la gauche, notamment la gauche de gouvernement, ne dit plus « l'Amérique, c'est le problème ». Elle se précipite à l'ambassade des États-Unis au moment de la guerre d'Irak pour rassurer l'ambassadeur américain et les trois représentants du parti socialiste, je ne dirai pas leur nom, sont venus dire « quand nous serons au pouvoir, nous serons à vos côtés, chers Américains ». Et on dénonçait au même moment Chirac. Et j'ai constaté que l'intelligentsia, excusez-moi, française, a massivement appuyé les guerres d'agression américaines en Irak et ailleurs. Quand vous regardez les libres opinions de Libération et du Monde, vous voyez tout de même qu'il est tout de même encore très mal vu, mon cher Philippe Roger. Il est encore très mal vu.
Je vois le verre plein de l'autre côté.
D'être considéré comme un anti-américain rabique, primaire évidemment. Pathologique parfois, parfois excusable parce qu'il a eu quelques embarras en Amérique latine, mais enfin, restons sérieux.
Mais alors, Régis Debray, quand même, la question, c'est-à-dire l'anti-américanisme a pu servir d'écran à la question du totalitarisme, est-ce qu'il ne peut pas servir aujourd'hui d'écran à la question de l'islamisme radical ou de l'islamisme en général?
Oui, alors là, vous touchez le problème clé, algique, qui fait mal. Et là-dessus, nous sommes sans doute en désaccord. En termes de civilisation, qui est le mien, hein, c'est-à-dire entendu comme la plus complexe et la plus durable et la première de nos permanences, je ne vois pas l'islam comme une civilisation émergente. Je ne lui vois pas une proposition civilisationnelle, que ce soit en termes scientifiques, imaginaires, morales. Autrement dit, je ne pense pas que dans la mesure où on ne détruit que ce qu'on remplace, je ne crois pas que la civilisation islamique puisse détruire la civilisation dite occidentale, simplement parce qu'elle elle n'a pas de produit de remplacement, sinon un retour, sinon une nostalgie, sinon peut-être le rappel qu'on peut avoir un autre rapport à la mort, que le nôtre, qui n'en avons plus. Mais cela étant dit, ils n'ont rien à offrir. Ils n'ont rien à mettre sur la table. Que ce soit, je dirais, rien qui puisse aider à notre confort, à notre imaginaire, à notre sexualité. Autrement dit, pour moi, trouble à l'ordre public, oui. Trouble à l'ordre actuel des rapports de force entre civilisations, non. Je sais que la chose est contestée.
Vous voulez répondre, Philippe Roger, sur ce
thème? Je ne suis pas du tout un spécialiste dans ce domaine. Donc, je voudrais simplement dire que il y a effectivement peut-être surestimation et que l'analyse de Régis Debray sur le fait qu'il n'y ait pas de modèle proposé, ça rejoint un petit peu ce que mon ami Olivier Roy dit sur l'échec de l'islam politique. C'est qu'effectivement, ça n'est pas forcément de là que vient une menace de remplacement civilisationnel.
Bon, mais pas forcément remplacement, mais bon, c'est un autre débat. Et je ne voudrais pas vous entraîner l'un et l'autre sur ce terrain parce qu'il y a une question qui me tourmente un peu. une forme à laquelle on ne pense pas de l'impérialisme américain, qui serait éventuellement le politiquement correct. Et d'ailleurs, vous en parlez, Régis Debrun, à un moment donné dans votre livre, puisque vous dites que, finalement, l'ambassade américaine a parrainé un camp d'été décolonial, séminaire de formation à l'antiracisme politique inspiré des études féministes et postcoloniales des universités US. Moi, avec le politiquement correct, j'en étais resté, les années 90, les Dwems. C'est la culture européenne. Et les Dwems, c'était ces êtres qui offraient un quadruple handicap. Ils étaient morts, ils étaient blancs, ils étaient européens, ils étaient mâles. Donc voilà. Contre la culture européenne. Mais ça va beaucoup plus loin aujourd'hui, puisque j'ai appris que maintenant, dans les cours, il y avait des avertissements préventifs, c'est-à-dire les professeurs disaient « Attention, là, ça peut choquer certains élèves, certains étudiants. » Il y avait et parce qu'il fallait que les classes soient des « safe space ». Ainsi, David Aziza, qui est à Columbia, écrit-il dans la règle du jeu que des étudiants ont demandé à être dispensés de la lecture des Métamorphoses d'Ovide, parce qu'il s'y trouve des scènes de viol, et puis dans un autre collège, des étudiants ont protesté contre des sombreros portés à Halloween, sombreros portés par des non-mexicains. C'était un acte d'appropriation culturelle. We don't feel safe, ont-ils dit. Et on sait comment le New York Times a critiqué notre réaction française au burkini, avec une violence inouï, en disant que c'était à peu près du même ordre. C'est une forme de talibanisme laïque, une ostracisation qui rappelle la police morale des pays théocratiques comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Voilà, par un pays qui considère que ces valeurs sont le parangon des libertés occidentales. Alors est-ce que nous sommes menacés aussi en Europe de cette américanisation-là, Régis Debray?
Oui, la petite phrase que vous mentionnez, ça vient d'une réflexion sur cette chose nouvelle. C'est que, contrairement à l'influence italienne ou à l'influence britannique sur le passé culturel français au XVIe ou XVIIIe siècle, l'hégémonie américaine avance par le haut et par le bas. C'est-à-dire qu'elle avance à la fois par la philosophie analytique dans les jurys d'agrégation de philosophie que par la casquette de baseball dans le 9-3, pour aller vite. Et donc, effectivement, il y a une sorte de prise en tenaille par la upper class qui va évidemment éduquer ses enfants, bien sûr, à la Yale University pour avoir le fameux MBA, mais également par les loubards ou les sauvageons, comme il ne faut pas dire.
Pas et possible d'ailleurs qu'il y ait un jour des casquettes de baseball parmi les membres du jury.
Oui, ça, ce serait la combinaison parfaite, c'est pour demain. Mais pour le moment, nous avons donc effectivement, ce à quoi Alain Finkielkraut fait référence, une sorte de détrempe. Ça déteint. Qu'est-ce qui déteint? Par exemple, les questions de genre, les questions de minorité qui, aujourd'hui, dans le monde universitaire, remplacent ce qui était les questions de classe, qui sont d'antagonismes sociaux. Si vous voulez traduire en américain, vous avez intérêt aujourd'hui à faire un livre sur une minorité bretonne ou basque non reconnue en France, ou sur l'oppression féminine. Donc, c'est vrai qu'il y a, et oui, je dirais, un politiquement correct qui s'impose de plus en plus et qui va aujourd'hui jusqu'à, encore une fois, la notion de transparence, qui pour moi est une notion néo-protestante typiquement américaine. Donc il est vrai, ça devient de plus en plus difficile de résister à cette... d'admettre, par exemple, qu'il y a des secrets d'État. C'est très vilain de dire ça, un secret d'État. Ça veut dire qu'il y a un État, mais c'est épouvantable. C'est la société civile, cher ami, qui doit aujourd'hui prendre le pouvoir. Elle le fait, d'ailleurs, en ce moment. Donc, vous avez raison, mon cher Finkielkraut, nous sommes, comment dirais-je, enveloppés par, fallait dire, par la tête et par les pieds, si je pense au Nike.
Est-ce que vous pensez, Philippe Roger, que le jour viendra où les étudiants même français réclameront que les classes ou les amphis soient des safe space et qu'il y ait des trigger warnings pour les professeurs quand ils s'aventurent?
C'est pas l'expérience que j'ai avec mes propres étudiants à l'école des hautes études, loin de là. Mais je voudrais juste un mot. Moi, j'ai suivi cette affaire du ce qu'on appelle politiquement correct. Il faut quand même souligner que c'est un terme polémique depuis le début. C'est-à-dire, oui, on dit politiquement correct quand on n'aime pas ça. Bon, et quand on dénonce la chose globalement. Alors moi, il me semble qu'il y a plusieurs choses très différentes. Comme j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre les campus américains et la France, je l'ai vécu concrètement, en direct. La première chose, la première époque, c'était l'époque où on voulait faire des speech codes. C'est-à-dire qu'on a voulu, dans beaucoup d'endroits, interdire un certain nombre de mots, expurger le vocabulaire des mots qui avaient une connotation, ou même une dénotation, ouvertement raciste en particulier. Alors, ça a échoué, hein, bien sûr. L'intention était bonne, mais on le sait, le langage, c'est plein de shifters. Il y a des moyens de se glisser, c'est comme une anguille. On disait plus les termes interdits, mais on disait un terme non moins injurieux à la place. Ça, c'est un échec, c'est absurde. Et en plus, c'était contraire au droit américain. Donc, à chaque fois qu'il y a une action en justice, ça a été cassé. L'autre problème, qui est beaucoup plus délicat, celui que vous soulevez, c'est celui des œuvres. C'est celui du canon, comme on dit là-bas, oui, c'est-à-dire du corpus. Mon expérience, c'est que le premier cours à un niveau gradué, comme on dit là-bas, que j'ai fait, c'était un cours entier sur Sade pendant un semestre. Pourrais-je le faire aujourd'hui? Je ne suis pas sûr.
Ce serait pas safe pour tout le monde.
Peut-être pas pour moi. Ce serait peut-être pas désirable pour les étudiants. Il y a une manière de tenir compte, effectivement, d'un état de l'atmosphère qui ne devrait en aucun cas aller jusqu'à une censure ou autocensure. Je pense qu'il y a là un jeu d'ajustement. Refuser de lire les Métamorphoses, c'est inadmissible, hein. Dans l'exemple d'Ovide, ça ne tient pas la route. Qu'il y ait une manière de vous obliger à réfléchir à ce que les jeunes étudiants que vous avez en face de vous peuvent concevoir des textes que vous proposez, c'est pas en soi pour moi un scandale absolu, si ça ne va pas jusqu'à l'exclusion d'œuvres du corpus.
L'exclusion par la morale.
L'exclusion par la morale de la littérature, ce qui est un problème, et on peut s'interroger aussi sur la question de savoir si Trump, le terrible Trump dont nous n'avons pas eu le temps de parler, n'est pas une sorte de némésis du politiquement correct, quoi. C'est-à-dire, plus on est allé loin dans tout ça, la politique des identités, et ben plus il y a eu cette réaction effrayante que Trump incarne.
C'est une espèce de retour de manivelle terrifiant, oui. C'est comme quand on a le bras cassé avec les vieilles manivelles des vieilles voitures, celles de notre temps, de la technologie.
Les vieilles manivelles des vieilles voitures, on a commencé par la grande technique et on termine par cette métaphore un peu plus ancienne. Merci beaucoup, Philippe Projet. Je rappelle le titre de votre livre, L'ennemi américain, généalogie de l'anti-américanisme français. Il est publié au Seuil et maintenant en collection de poche, je crois.
C'est cela.
Très bien. Et Régis Debray, vous venez de faire paraître chez Gallimard Civilisation, comment nous sommes devenus américains.
À savoir un manifeste pour l'indépendance culturelle que nous devrions signer tous les trois.
Nous terminerons sur ce beau moment de communion et de bienveillance. La semaine prochaine commencera le cycle des rediffusions d'été avec En Marche, une émission non macronienne mais pédestre, dont mes invités étaient Frédéric Gros et Sylvain Tesson. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Emmanuel Armingue. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.